Donc, dans cette deuxième partie de cette lettre aux Éphésiens, dans les chapitres 4, 5, 6, l'apôtre Paul explique comment doivent vivre les chrétiens, ceux que Dieu a sauvés par sa grâce. Il leur demande de marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. De ne pas vivre comme les païens, donc les inconvertis, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, mais de marcher dans l'amour, de vivre dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ, marcher comme des enfants de lumière, il est dit aussi, au chapitre 5. Après, il parle de la conduite donc du chrétien dans l'Église, et il rappelle l'importance de conserver l'unité de l'Église. Il parle de l'unité de l'esprit et de rechercher l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Il dit aussi que dans sa vie personnelle, le chrétien doit donc laisser la lumière de Christ rayonner dans sa vie pour qu'il soit lui-même cette lumière qui apporte donc cette lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Et puis, il parle de la vie de couple. Il rappelle que la relation dans le couple doit être à l'image de celle de Christ avec son Église. Donc, après avoir parlé de la relation qu'il y a entre mari et femme au chapitre 5, nous voyons ce qu'il dit dans ce chapitre 6, versets 1 à 4, concernant donc la relation entre les parents et les enfants. Alors, j'aimerais lire ce passage avec vous. Éphésiens, chapitre 6, verset 1. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Voilà juste ces quatre versets qui vont donc capter toute notre attention là ce matin. Ce sont des passages que nous connaissons. Et qu'il est important que nous nous rappelions ce que le Seigneur dit. Dans ces versets, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'apôtre Paul souligne l'importance de faire les choses selon le Seigneur. Les enfants obéissent à leurs parents selon le Seigneur, comme il est dit au verset 1, mais aussi que les pères doivent élever leurs enfants en les instruisant selon le Seigneur. Donc tout doit être fait selon le Seigneur, comme le Seigneur le veut et comme le Seigneur voudrait que les choses se passent. Donc ce que j'aimerais souligner dans un premier temps, c'est que l'attitude que nous avons envers les autres, que nous pouvons avoir envers les autres, et c'est vrai que ça peut être et doit être à l'image de celle que nous avons envers Dieu. L'attitude que nous avons envers les autres doit être fondée sur ce que le Seigneur nous dit. Alors, si un enfant qui doit obéir à ses parents, selon la parole, ou des parents soucieux de l'éducation de leurs enfants, toujours selon la parole de Dieu, témoignent de leur volonté de plaire à Dieu, d'obéir à Dieu. Tout comme un enfant rebelle à ses parents, il y a de fortes chances aussi, et ça traduit aussi que cet enfant ne se soumet pas à Dieu et il est rebelle à Dieu également. Et ce passage me fait dire aussi que l'attitude que nous avons envers les autres doit être donc à l'image, au fait, de celle de Dieu envers nous. Par exemple, pour éduquer nos enfants, pour éduquer leurs enfants, les parents peuvent se poser la question de la méthode utilisée par Dieu pour les aider à grandir et devenir un adulte dans la foi. Qu'est-ce que Dieu fait, qu'est-ce qu'il a prévu, qu'est-ce qu'il a mis en œuvre pour permettre à celui ou à celle qui vient de se tourner vers Christ, donc celui ou celle qui l'a sauvé, qui est maintenant un enfant spirituel, qu'est-ce que Dieu fait pour permettre à cet enfant spirituel pour qu'il grandisse, devienne des hommes et des femmes faits pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu ? Alors, une personne qui a accepté le Seigneur va lire la parole de Dieu à la maison, va prier, mais ça sera, va pas tout comprendre. Et Dieu, il va dire, il a dit, cette personne qui vient de se tourner vers Christ, qui a accepté Christ, qui est un enfant dans la foi, a besoin de grandir. Et donc, pour que cette personne grandisse dans la foi, je l'intègre dans un corps qui est l'Église, et c'est au sein de ce corps que cette personne va pouvoir grandir et s'épanouir. Et donc, l'Église est là et va organiser des activités ou des actions pour permettre à chacun de grandir dans sa foi et grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est pour cela aussi que Dieu donne à l'Église l'édit des pasteurs et des docteurs pour l'enseignement, pour l'édification de tous, afin que nous parvenions tous à la connaissance du Fils de Dieu. Donc l'Église va, qu'est-ce que l'Église va faire ? Va organiser des réunions, par exemple la classe de la Bible, pour que les enfants puissent entendre la parole. L'Église va organiser des études bibliques pour que celui qui vient d'accepter Jésus-Christ puisse découvrir beaucoup plus profondément ce que Dieu dit dans sa parole. Et ce qui, tout seul, il aurait des difficultés à pouvoir forcément tout comprendre. D'où le sens de l'étude biblique, ou bien des réunions spécifiques pour les jeunes, pour les dames, etc. Donc tout est fait. Au fait, dans le cadre de l'Église, pour permettre à celui ou à celle qui a donné sa vie à Jésus-Christ de grandir dans la connaissance du Fils de Dieu et pour devenir des hommes et des femmes matures et prêts à accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Donc voilà, je dirais, le plan de Dieu, ce que Dieu fait pour permettre à cette personne qui, au départ, sera un enfant spirituel, cette personne qui vient de se donner à Jésus-Christ, cette personne va grandir spirituellement, va mûrir et va servir le Seigneur et faire ce que le Seigneur a prévu pour lui. Alors, si on calque cette manière de faire avec notre façon de faire vis-à-vis de nos enfants, on va dire... on a lu ce psaume 139 que voilà, Dieu nous, c'est Dieu qui nous a créés. Et lorsqu'il nous a fait la grâce d'avoir un enfant ou des enfants, il nous confie aussi une responsabilité. La responsabilité d'éduquer nos enfants. Et c'est lorsqu'on se marie devant le maire, ça fait partie des responsabilités des parents qui sont rappelées. Alors, en tant que parents, nous avons ce bébé, qui a besoin de lait au départ, voilà. Et cet enfant va grandir, va commencer à marcher. On va lui apprendre papa, maman, et puis. Mais on sait très bien que ça va pas suffire. Au bout d'un certain temps, cet enfant devra aller à l'école, parce que. Tous les parents ne sont pas professeurs pour avoir toute la pédagogie qu'il faut pour enseigner leur enfant, pour que l'enfant puisse apprendre des choses, comment lire et écrire, compter, etc. Donc on comprend qu'il faut envoyer notre enfant à l'école, et c'est fait aussi pour cela. Parce que, en tant que parents, nous voulons que notre enfant grandisse, progresse et devienne des adultes et qu'ils soient capables d'accomplir leur vie, accomplir un travail et qu'ils soient épanouis. Et si cet enfant, on lui dit que oui, il faut aller à l'école, parce que si tu ne vas pas à l'école, tu vas rester, tu seras analphabète ou illettré. Si cet enfant fait l'école buissonnière, vous comprenez bien que cet enfant aura beaucoup de retard sur le plan scolaire et il ne pourra pas forcément faire peut-être le travail qu'il aurait pu faire s'il avait suivi un cursus normal. Et s'il l'avait fait sérieusement, si cet enfant s'était discipliné à aller à l'école, etc. Donc, en tant que parents, nous veillons à ce que nos enfants aillent à l'école, etc. Et maintenant, avec les moyens modernes, lorsqu'un un jeune ou un élève est absent, hop, dans l'heure, les parents sont informés, votre enfant n'était pas là à 8 heures, appelez tel numéro pour, etc. Et ça, c'est vrai pour l'éducation scolaire, etc. Mais sur le plan spirituel, lorsque Dieu nous confie les enfants, que faisons-nous pour assurer aussi la croissance spirituelle de cet enfant? Puisque là, c'est aussi une responsabilité que Dieu nous donne, d'assurer, faire en sorte que cet enfant puisse grandir, s'épanouir spirituellement pour qu'il accomplisse l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Et parfois, en tant que parents, nous oublions cet aspect ô combien important de notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Est-ce que nous leur apportons l'Évangile, la bonne nouvelle? Est-ce que nous prenons le temps de leur parler de Dieu à la maison, lire les histoires avant d'aller se coucher, etc. Lorsque cet enfant, en grandissant, va dire « oui, je crois en Jésus », est-ce qu'on l'encourage à aller à l'église ou est-ce qu'on vient avec cet enfant à l'église parce qu'on sait que l'enfant va y avoir la classe de la Bible, l'enfant va apprendre parce qu'on sait qu'on ne connaît pas forcément tout et qu'il y aura des monitrices qui vont étudier des passages et qui vont transmettre à nos enfants cet enseignement? Est-ce que pour nous, c'est important que nos enfants viennent pour pouvoir être enseignés? Pareil, l'enfant, il grandit, il devient jeune, il y a pas mal de problèmes, des problématiques qui sont abordées. Est-ce que nous encourageons nos enfants à aller à ces réunions de jeunes parce que c'est important et ils seront enseignés et toujours dans le sens de leur croissance spirituelle? Il y a des études bibliques. Est-ce que dans notre responsabilité, est-ce que nous leur disons... C'est important d'aller aux études bibliques. Ce n'est pas fait que pour les gens de plus de 50 ans. L'étude biblique, c'est venir étudier les passages. Par exemple, là, je suis en train de d'étudier le livre d'Apocalypse. Alors, je peux demander, je l'avais fait il y a une vingtaine d'années en arrière, j'avais fait cette étude, disons que je me suis dit, je vais le reprendre ici. Et en 20 ans, j'ai abordé une fois ce livre, et c'est des livres où on ne le fait pas. Et parfois, il y a des personnes qui ont 40 ans, 50 ans de vie chrétienne, peut-être qu'ils ont lu ce livre une fois, et encore, et prendre le temps de l'étudier, ils n'ont peut-être jamais fait. Je me suis dit, mais tu as fait ça il y a 20 ans, pendant tout ce temps... Les personnes n'ont pas étudié ce texte-là, ces livres-là. Et donc, le fait d'avoir négligé ces temps d'études bibliques, c'est, pendant toutes ces années, ces frères et sœurs n'ont pas reçu cet enseignement. C'est dommage. C'est dommage. Si on reste que sur les évangiles, la maturité spirituelle, excusez-moi. Donc on leur dit aux enfants, l'étude biblique c'est important. Et il faut dès maintenant, pendant que tu es jeune, comprendre que venir aux études bibliques c'est important, comme ça lorsque tu seras plus grand, tu vas le faire. Et malheureusement, ça se perd. Malheureusement, on néglige cet aspect de notre responsabilité au niveau de l'éducation de nos enfants. Mais en tout cas, Dieu, c'est ce qu'il fait. Il a tout mis en œuvre pour que ses enfants puissent grandir spirituellement. Et en tant que parents, il nous confie cette responsabilité d'accompagner nos enfants pour qu'ils puissent grandir dans la maturité. Alors, on peut faire ce lien entre comment Dieu y procède et comment nous devrions procéder un peu à l'image de Dieu. On peut se dire, par exemple, lorsque nous péchons, lorsque nous avons commis un péché, est-ce que Dieu nous punit ? Est-ce qu'il nous punit ? Et s'il le fait, est-ce que c'est toujours de la même manière qu'il nous punit ? Est-ce que c'est toujours la même sanction ? Lorsque nos enfants donc font une bêtise, est-ce qu'il faut les punir ? Est-ce que c'est systématiquement, toujours de la même manière ? Quelle est la méthode éducative de Dieu ? Est-ce qu'il est un Dieu tyrannique, un Dieu méchant, un Dieu violent, qui fait que son enfant a peur de lui ? Et donc, si nous devons corriger nos enfants, devons-nous le faire sous la colère, dans le but de les rabaisser, de les écraser, de les humilier ? Comment Dieu y fait ? Comment agit-il lorsque nous reconnaissons notre faute ? Nous venons vers lui, nous lui disons, voilà, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Et la Bible, on connaît ces versets où nous dit, voilà, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors lorsque les enfants viennent nous demander pardon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait comme Dieu ? Est-ce qu'on dit, oui, voilà, je t'ai pardonné ? Ou bien est-ce que sans cesse on rappelle les erreurs du passé ? Etc, etc. Soumettons-nous donc, frères et sœurs, à l'autorité de notre Seigneur, je crois. Qu'on soit enfant ou qu'on soit parent, ayant une attitude qui soit digne de notre Seigneur. En tant qu'enfant, en obéissant à nos parents qui ont autorité sur nous, mais en tant que parent, en exerçant notre autorité dans l'amour, c'est ça que j'aimerais voir avec vous en nous appuyant sur ce passage. Donc déjà, l'apôtre Paul s'adresse aux enfants. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est de voir que, alors c'est des passages qui étaient lus à l'église. C'est-à-dire que dans l'église, il s'est adressé à tout le monde. Il s'est adressé spécifiquement, disant « femme et mari », et il parle aussi aux enfants. Ça veut dire que c'est un peu comme nous, là. Tout le monde est là. Le papa, la maman, les enfants. Tout le monde est là, tout le monde écoute la parole de Dieu. Et ça montre encore l'importance de venir en famille. Que l'église, ce n'est pas une option. Venir en famille, écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à dire aux parents ? Qu'est-ce que Dieu a à dire aux enfants ? Et ça montre aussi que Dieu a une parole spécifique pour chacun, quel que soit son âge. Alors, ce qui est rappelé, c'est que les enfants doivent obéir à leurs parents. Et c'est là la preuve de la soumission en fait des enfants aux parents. Si on dit qu'on est chrétien, on a l'Esprit de Dieu doit nous pousser à cela. Soumettez-vous les uns les autres, il est dit, dans la crainte du Seigneur. Donc lorsqu'on se dit chrétien, enfant de Dieu, L'Esprit de Dieu doit nous pousser à obéir à la parole de Dieu qui dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Alors, l'obéissance, c'est quelque chose de primordial. Dans la parole de Dieu, Samuel, il a rappelé cela à Saül. Lorsque Saül il n'a pas obéi au commandement que Dieu lui avait donné de dévouer pour interdit les Amalécites, Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et parce que Saül n'a pas obéi à l'ordre de Dieu, alors il a perdu la royauté. J'aimerais lire un passage dans Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7, à partir du verset 21. Jérémie chapitre 7, à partir du verset 21. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair, car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction, la vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Donc dans ce passage, ce que Dieu demande à son peuple est d'écouter sa voix et de faire ce qu'il leur prescrit pour qu'ils soient heureux. Alors quelle a été la réponse d'Israël? Déjà au verset 24, il dit « Ils n'ont pas obéi ». Ils ont fait ce qu'ils voulaient en suivant les penchants de leur mauvais cœur. Et puis, quelle a été la conséquence? Au verset 24 dit, ils ont été en arrière et non en avant. Dieu veut que ses enfants soient ceux qui sont devant. Et malheureusement, à cause de la désobéissance, on se retrouve en arrière au lieu d'être en avant. Donc on se prive des bénédictions de Dieu lorsque on n'obéit pas aux commandements que Dieu donne. Dieu, il veut que nous soyons obéissants à ce qu'il nous dit et non pas que nous agissions selon les penchants de notre cœur. Alors l'apôtre Paul, il donc rappelle ce commandement aux enfants. Il dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Cela est juste et c'est comme cela que ça doit être et pas autrement. Et l'obéissance, c'est quelque chose, même sur le plan naturel, lorsqu'on est enfant, c'est naturellement Dieu a mis dans le cœur de l'homme ça aussi, d'être obéissant. Donc, et lorsqu'on n'est pas obéissant, cela traduit aussi, notamment dans cette société, les enfants seront rebelles à leurs parents, c'est les mêmes. Les marques de la fin des temps. Plus on avance et moins les enfants sont obéissants à leurs parents. Et donc, quand on est chrétien, on ne doit pas suivre ce mouvement-là. Alors, il dit aussi que C'est le commandement avec une promesse. L'apôtre Paul rappelle ce que Dieu a dit dès le début à son peuple, à Israël. Donc il l'applique à l'Église pour rappeler que ce commandement n'est pas altéré par le temps, ni par la culture, ni par quoi que ce soit. C'est un commandement qui est universel. Et donc, enfants, obéissez à vos parents, ce n'est pas si vous voulez, il est juste de le faire. Et c'est un commandement qui dit, où Dieu fait la promesse d'être heureux et de vivre longtemps sur la terre. Vivre longtemps sur la terre. On a des bénédictions dans les lieux célestes, mais là, l'apôtre Paul dit, voilà, pour vivre longtemps, là maintenant, sur la terre. Et donc, c'est la condition pour avoir une vie longue et heureuse. L'attitude juste à avoir envers nos parents, c'est donc d'écouter leurs instructions, être attentif à l'éducation que l'on reçoit, ne pas les rejeter ou les négliger, comme le dit le Proverbe chapitre 1. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Donc, il est très important d'écouter les instructions, les conseils que nous donnent nos parents. Il est dit aussi de les honorer. Honore ton père et ta mère. Avoir pour eux un profond respect. Ne pas les maltraiter. Ce qui était même considéré pour le peuple d'Israël comme un crime. Dans Exode chapitre 21, il est dit, celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc ne pas respecter, avoir le moindre geste qui soit pas conforme, c'était la mort. Donc l'apôtre Paul, il ne prend pas le côté négatif. Il dit, voilà, honore ton père et ta mère et tu seras heureux. C'est mieux ça. Tu seras heureux, tu vivras longtemps. Pouvoir aussi à leurs besoins s'ils ne peuvent plus le faire. C'est 1 Timothée chapitre 5. Je vais lire ce passage avec vous. 1 Timothée chapitre 5, verset 3, où l'apôtre Paul rappelle cela. Il dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur donc ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Voilà. Donc, le Seigneur nous rappelle cette responsabilité que nous avons envers ceux qui nous ont donné la vie. Nous devons les honorer, prendre soin d'eux, et les accompagner. Maintenant, j'aimerais... Parce que le verset 4 parle maintenant de la responsabilité du père, des pères. Et ce terme père peut englober papa et maman, les parents. Et malheureusement aussi, beaucoup de mamans assument pleinement ce rôle de père. Beaucoup de mamans... sont amenés à élever leurs enfants toutes seules. Parce que malheureusement, les pères sont défaillants. Ou bien parce que, pour des circonstances de la vie, ça peut arriver. Mais très souvent, c'est parce que les pères n'assument pas leurs responsabilités. Et ça, c'est malheureux. Et donc, les mères ont cette double casquette, et donc d'élever leurs enfants avec la force que Dieu leur donne. Et donc, c'est cette partie, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les excusant selon le Seigneur. En disant ça, l'apôtre Paul rappelle cette responsabilité du chef de famille. C'est à lui que revient cette responsabilité d'éduquer ses enfants, d'élever ses enfants avec l'épouse. Mais c'est au père, c'est sa responsabilité. Et si ça se passe pas bien, c'est comme Dieu avec Adam, c'est Dieu va aller voir le père. Donc il leur demande de ne pas irriter leurs enfants, ne pas mettre en colère, ne pas énerver les enfants. Et un auteur dit que les mots « n'irritez pas » suggèrent une façon habituelle, continue de faire, qui crée petit à petit une exaspération qui finit par éclater en hostilité ouverte. Donc c'est quelque chose de récurrent. C'est une habitude qui est prise dans sa relation avec son enfant qui fait qu'au bout d'un certain temps, il y a ce rejet de l'enfant vis-à-vis de son père et de ses parents. Dans 1 Samuel chapitre 20, il y a l'exemple de Saül et son fils Jonathan. Alors Jonathan, Saül voulait tuer David, vous savez, et Jonathan, le fils de Saül, c'était l'ami de David. Et donc, avec David, Saül, ils se sont dit, voilà, je vais aller au repas qu'organise mon père. Et puis, normalement, toi, tu dois être là, mais tu ne vas pas venir. Mais je vais voir comment mon père va réagir en ton absence. Et on va voir dans ce passage, 1 Samuel chapitre 20, on va le lire, on va prendre les quatre versets. 1 Samuel chapitre 20. Voyant que David n'était pas présent, Saül va commencer à s'en prendre à son fils Saül, Jonathan, pardon. Saül va s'en prendre à son fils Jonathan. 1 Samuel chapitre 20. Verset 30. Il est dit, alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit, « Fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, et lui dit, « Mais pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait ?» Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le second jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Vous voyez, donc là, c'est une situation où Jonathan se lève de table, il est dit dans une ardente colère, car il était affligé parce que son père l'avait outragé. Il était en colère contre son père parce que son père était en colère contre lui. Il était en colère contre son père à cause des paroles méchantes que son père lui a adressées. Il lui dit « fils pervers et rebelle ». Et il était en colère aussi contre son père parce qu'il ne comprenait pas la position et l'acharnement de son père, pourquoi il voulait tuer David. Il ne comprenait pas. Il était en colère contre son père à cause de la violence physique de son père à son égard. Saül qui dirigea sa lance vers lui pour le frapper. Et en nous demandant de ne pas irriter nos enfants, le Seigneur nous demande de ne pas nous mettre en colère contre notre enfant, car cette colère peut nous pousser à être violents avec cet enfant, violence physique ou verbale. Veillez aux paroles qui sortent aussi de notre bouche. Ces paroles peuvent être blessantes. Ne pas irriter son enfant, c'est aussi veiller à ce que l'enfant comprenne les raisons pour lesquelles nous le punissons, que l'enfant ne doit pas considérer la correction comme une injustice. Et aussi faire attention à ce que la correction ne soit pas de la maltraitance. Le fait est donc d'user de la violence physique pour asseoir son autorité. Alors le résultat du fait d'irriter l'enfant, notre enfant, il est désastreux. Il est désastreux parce qu'on obtient exactement le contraire de ce que l'on souhaitait. Jonathan, il est parti, il s'est mis du côté de David, alors que son père voulait qu'il soit contre David. Et donc, l'objectif voulu par le père n'a pas été atteint, bien au contraire. Parfois, on veut que notre enfant aille dans une direction, mais si nous n'agissons pas avec sagesse vis-à-vis d'eux, eh bien, ils vont aller exactement dans la direction qu'on ne voulait pas qu'ils aillent. Et donc, et là, ce qui était aussi vrai, c'est qu'au départ, c'était une personne qui était en colère, Saül, mais à la fin, c'était deux qui étaient en colère. Saül et Jonathan, tous les deux étaient en colère. Donc finalement, personne n'en a rien gagné. Et donc, en cela, j'aimerais dire que si nous avons irrité notre enfant, parce que ça peut arriver, nous ne sommes pas parfaits, sachons aussi nous humilier devant eux pour leur demander pardon. Sachons reconnaître notre tort. Sachons leur dire, j'ai mal agi. J'ai dit ça, je n'aurais pas dû le faire. Et au lieu d'irriter nos enfants, nous sommes encouragés à les élever en les corrigeant et en les instruisant. Les parents donc, et le père en particulier, puisqu'il est le chef de la famille, doit éduquer ses enfants dans la crainte de Dieu et faire d'eux de bons citoyens. Et l'attitude que nous avons envers nos enfants doit être à l'image de celle que Dieu a vis-à-vis de nous. Et dans Hébreux chapitre 12, alors on peut lire ce passage, Hébreux chapitre 12, l'auteur parle de cela. Hébreux 12 à partir du verset 4. Alors il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, ce texte nous dit que l'amour de Dieu pour son enfant est l'usage du châtiment envers celui qu'il aime. Le père qui ne châtie pas son enfant ne l'aime pas. Dieu châtie son enfant pour son bien, et dans un but pour que nous participions à l'édit à sa sainteté. Donc, le texte nous encourage à ne pas mépriser le châtiment du Seigneur et à ne pas perdre courage, à supporter le châtiment, car nous ne sommes pas les seuls. Tous ont part au châtiment, à nous soumettre au Père, car le châtiment voulu par Dieu est pour notre bien, et que ça produira plus tard un fruit paisible de justice. Alors, malheureusement, nous, là encore, nous pouvons mal faire. Et nous devons veiller à être justes là aussi. Dans 1 Samuel, il est parlé d'Élie, le sacrificateur, qui avait deux fils, Ophni et Phiné. Et Samuel voyait ce que faisaient ses fils, qui venaient se servir lorsque les gens offraient leurs sacrifices, qui couchaient avec des femmes. Et ben, tout le monde voyait ce qui se passait. Samuel, Élie était au courant. Dieu a envoyé un serviteur pour avertir Élie. Et Élie n'a rien fait. Et malgré le fait qu'il ait connaissance des mauvais agissements de ses fils, il n'a rien fait. Il a fait le choix d'honorer ses fils plus que Dieu, malgré les avertissements que Dieu lui a donnés. Et donc Dieu lui annonce une série de malédictions, notamment la mort de ses fils le même jour, et lui dit qu'un autre prendra sa place dans la fonction sacerdotale. Et tout cela parce que Élie a refusé de réprimer ses fils alors qu'il était au courant de ce qu'il faisait. Et donc, on lit ça dans 1 Samuel chapitre 2 et chapitre 3. Pour nous rappeler que Dieu nous a confié nos enfants pour que nous les éduquions, que nous les préparons pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes mûrs pour les choses de la vie sociale, mais aussi et surtout sur le plan spirituel. On doit être des modèles pour eux, à nous de leur montrer que suivre Christ, c'est la meilleure des choses. Et en quoi suivre Christ, c'est bon pour eux. S'ils ne voient pas Christ en nous, s'ils ne voient pas la lumière qui brille en nous, ils ne vont pas vouloir suivre Christ. Et que c'est malheureux d'avoir des enfants qui disent, voilà, si c'est pour être chrétien, si c'est ça être chrétien, ben moi je ne le veux pas. Et donc on a cette responsabilité en tant que parents d'être nous-mêmes un modèle et chercher à les éduquer selon la parole de Dieu, selon Dieu. En tant que parents, nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons des erreurs. Nous devons le reconnaître aussi. Mais que Dieu nous donne la grâce, qu'il nous fasse cette grâce de pouvoir accompagner nos enfants tout en respectant leur personnalité, tout en respectant ceux qui sont, les accompagner pour qu'ils deviennent eux aussi des hommes et des femmes qui soient bien dans leur peau, qui soient bien dans la vie et surtout qui voient combien c'est bon de servir le Seigneur et que nous ne soyons pas un obstacle à cela. Donc que Dieu nous aide, que Dieu bénisse les mamans qui s'occupent seules de leurs enfants, que Dieu nous donne à assumer pleinement notre responsabilité de père. Et j'aimerais encourager les pères à assumer pleinement leur responsabilité. Ne négligez pas cela, puisque nos enfants aussi, nous leur montrons aussi comment être avec papa et entre mari et femme, nous leur montrons aussi là comment eux ils doivent être selon Dieu. Donc nous aurons des comptes à rendre pour tout cela. Dieu va nous demander des comptes et nous, on ne pourrait pas dire à Dieu qu'on ne savait pas. Donc j'aimerais terminer avec ce chant qui dit « Dieu nous aime comme un père ». Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que en tant que père, nous pouvons être imparfaits. Et nous le sommes. Mais Dieu, il est parfait. Nous trouvons en Dieu le Père que nous n'avons pas eu. Nous trouvons en Dieu et dans sa parole tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir en maturité spirituelle si le Père, si les parents sont défaillants. Donc, d'où la nécessité encore d'étudier, de lire la parole de Dieu pour faire les choses selon Dieu. Voilà, Dieu nous aime comme un Père, c'est dans le « À toi la gloire », le 321, qu'on va chanter pour terminer ce culte.